Sabine, c'est aussi les voix d'Alice Tudou et de Philippe Routier.
Fun. To be continued.
Remember, Sally, when I promised to kill you last?
That's what made you... You did!
Bande Geek Mafia, votre émission Infoculture, tous les mercredis à 19h sur Radio G.
Radio G, 101.5 FM.
The day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck, that day, I cut my throat.
Comme toutes les semaines, on va parler cinéma, on va parler bande dessinée, on va parler de séries télé, de jeux vidéo, de musique, de tout ce qu'on aime. Bande Geek Mafia, votre émission Infoculture, tous les mercredis à 19h sur Radio G.
La radio qui fait le point. 101.5 FM. J'ai dit quoi? 101.5?
Attends, tu vas voir, ça passe à la radio là!
Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour une deuxième chronique réalisée en confinement. J'ai l'habitude de vous parler de mes coups de cœur lecture, mais cette semaine, j'ai décidé de mettre un coup de projecteur sur quelques revues que j'ai pris plaisir à lire ces dernières semaines, en commençant ce soir par une revue de presse consacrée à trois titres jeunesse qui proposent une sélection d'articles vous permettant de sortir de cette actualité particulièrement morose pour vous évader ou assouvir votre soif de curiosité. Alors c'est parti, on commence tout de suite avec le dernier numéro hors série de Science et Vie Junior qui consacre plusieurs de ses pages à 40 questions de science qui ne sont pas si absurdes. Vous ignoriez jusqu'à présent que l'on pouvait cuire un poulet en lui mettant une claque, qu'il était possible de construire un ordinateur en bois, ou encore, et là je pense très fort à mes petits camarades de jeu Héloïse, les deux Seb, Adrien et Olivier, que la bière existait il y a 13 000 ans et que sa consommation a peut-être conduit à l'invention de l'agriculture, eh bien, vous apprendrez tout cela et bien d'autres choses encore en lisant le hors-série numéro 141 de Science et Vie Junior. Comme nous sommes dans Bande Geek Mafia, je vous invite particulièrement à lire l'article intitulé « L'ASF délire-t-elle vraiment ?» L'équipe de Science et Vie Junior a passé à la loupe 8 délires de SF et de fantasy pour savoir si nous aurions la chance ou pas de les voir se concrétiser. On y apprend donc qu'il est possible de faire léviter des objets. La lévitation correspond au béaba de la magie. C'est un sort élémentaire pour n'importe quel apprenti sorcier en première année de la fameuse école Poudlard. Mais brandir une baguette magique en prononçant la formule Wingardium Leviosa n'est pas nécessaire. Vous pouvez vous contenter de faire du bruit. Il est en effet possible d'utiliser le son pour faire flotter un objet dans les airs. C'est ce qu'on appelle la lévitation acoustique.
One of a wizard's most rudimentary skills is levitation, or the ability to make objects fly. You will have your feathers. Good. Now, don't forget the nice wrist movement we've been practicing. The swish and flick. Everyone? The swish and flick. Good. Oh, and enunciate. Wingardium Leviosa. Off you go then.
Wingardium Leviosa.
Wingardium Leviosa.
Wingardium Leviosa.
Science et Vie Junior revient également sur le lentiver présent dans la série Game of Thrones. L'idée d'hiver à rallonge ne serait, selon la revue, pas si délirant. Attention, winter is coming.
The But winter is coming. We know what's coming with it. We can't face it alone.
On apprend aussi que la stratégie de Thanos pour sauver la planète serait un gros raté, que les Ents, ces arbres marcheurs dans la Seigneur des Anneaux, n'existent que dans l'imagination des écrivains de fantasy, et qu'avoir un dragon de compagnie n'est vraiment pas la meilleure idée à avoir. Pour finir, vous retrouverez aussi dans ce numéro des films d'animation à découvrir ou revoir pour vous plonger dans l'univers steampunk. Ce sous-genre de la science-fiction qui fait la part belle à la période industrielle du 19e siècle et qui nous plonge dans les mondes animés par la technologie des machines à vapeur. Science et Vie Junior, et je me joins à eux, vous conseille le film Le Château Ambulant de Hayao Miyazaki, qui est une petite pépite, un sommet de la poésie réalisé par le maître des animés japonais. Je poursuis mon petit tour de la presse jeunesse avec le magazine Phosphore du 1er mai qui propose notamment un reportage sur la biodiversité qui met en lumière l'action de lycéens dans leur établissement avant le confinement, mais aussi une BD réalisée à l'occasion du 75e anniversaire du 8 mai 1945 qui nous raconte l'histoire de Pierre qui était à la fois lycéen et résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Je m'arrête ce soir aussi sur quelques brèves qui ont retenu mon attention dans ce numéro. Phosphore revient sur le défi lancé sur Twitter par la dessinatrice des culottés, que je vous recommande d'ailleurs, et le designer de jeux vidéo Oscar Barda. Le défi hashtag Corona Maison consiste à dessiner son endroit de quarantaine idéal. Le dessin original représente une grande pièce vide afin de laisser place à l'imaginaire. Les créatifs de Twitter s'en donnent à cœur joie pour illustrer leur propre espace détente, de l'appartement hyper réaliste aux créations plus fantaisistes avec piscine, jardin ou aquarium. Ces Corona Maisons reflètent la personnalité de leurs créateurs. En bref, on peut totalement dire qu'il s'agit là d'un cadavre exquis géant. Si vous souhaitez participer, il vous suffit de répondre avec votre dessin au tweet de Pénélope Bagieu. Le magazine nous présente également dans ses premières pages consacrées aux bonnes nouvelles une chaîne YouTube lancée par une jeune bruxelloise afin, je cite, « de prouver à tous ceux qui lui répétaient que l'art contemporain c'était nul, qu'ils avaient tort ». Dans sa chaîne aux 43 000 abonnés, intitulée « Art contemporain », Laure aborde ses sujets avec humour. Elle peut à la fois présenter des artistes, comme la star du street art Banksy, traiter de sujets comme l'homosexualité dans l'art, ou proposer des décryptages, comme celui réalisé sur le clip de Beyoncé et Jay-Z filmé au Louvre. Pour finir, cette revue de presse ciblée, je vous propose de découvrir un magazine peu connu que j'avais déjà eu l'occasion de présenter dans Mangeek Mafia. Il s'agit de Kesako Mundi, un mensuel consacré aux questions de société et qui s'adresse donc aux jeunes, plutôt fin de collège, lycée. Je le trouve assez bien fait, les articles sont clairs, présentés simplement pour que les jeunes s'informent tout en acquérant des repères afin de mieux comprendre les enjeux des grands thèmes de société qui déchaînent les passions et les médias. Je vous invite particulièrement à lire l'article consacré à la publicité et aux stéréotypes sexistes, mais aussi celui qui propose une définition du fact-checking et qui donne des outils permettant de vérifier facilement les informations qui circulent sur le web. J'en profite pour vous inviter à regarder les vidéos d'Oh My Fake diffusées sur YouTube ou d'autres médias sociaux. Oh My Fake est un programme proposé par 20 minutes. On y retrouve de courtes vidéos pour décrypter les fake news.
vibes and you're loudest.
Mauvaise nouvelle, j'entends des fausses nouvelles, mais fait. Mauvaise nouvelle, j'entends des fausses nouvelles.
Give me sound, give me vibes.
A chaque fois ça m'épate, quand on me dit que la terre est plate, je suis devenu mythomaniaque sur le côté. Fake news, fake news. Avec tout ce qu'on avale, tous les mensonges qu'on nous déballe, je suis devenu paranoïaque sur le côté. Fake news, fake news. Le vrai, le faux se mélange, plus c'est gros, plus j'y crois. Y'en a beaucoup que ça arrange, qu'on gomme n'importe quoi, la rumeur s'emballe, et tous les mots deviennent des balles. Vite, il faut que je m'échappe de toutes ces fake news, fake news. Wow, pourquoi fait-il chaud? Pur de rester sceptique quand on bronze l'hiver à Oslo. We don't know, y a-t-il un complot? Tout scientifique quand on lit les réseaux sociaux. Wow, même c'est des salafos, mon filet la grippe, mais je crois que je deviens trop parano. We don't know, que ça soit vrai ou faux. Où devient la vérité quand tout le monde reprend les mêmes mots? Tell me now, a-t-on touché la lune qui détient les fortunes et qui manie la plume pour nous le raconter? Qui devrait faire la une qui détient les tribunes, qui profite des lacunes pour tout réinventer? Et c'est par naïveté qu'on s'emballe, sans détail, on cabale, sans même vérifier. Et sans se questionner, ce que l'on monte se démonte à l'encontre de la vérité. Chaque fois ça m'épate, quand on me dit que la terre est plate, je suis devenu mythomaniaque sur le côté. Fake news, fake news. Avec tout ce qu'on avale, tous les mensonges qu'on nous déballe, je suis devenu paranoïaque sur le côté. Fake news, fake news. Le vrai, le faux se mélange, plus c'est gros, plus j'y crois. Y'en a beaucoup, ça arrange, qu'on gomme n'importe quoi. La rumeur s'emballe et tous les mots deviennent des balles. Vite, il faut que je m'échappe de toutes ces fake news, fake news. Fake news, fake news.
Voilà pour cette rapide revue de presse consacrée ce soir à la jeunesse. Je vous rappelle les revues présentées ce soir. Le numéro hors-série spécial des Rilire de Sciences et Vie Junior qui est consacré aux 40 questions de sciences qui sont pas si absurdes que ça. Phosphore, le magazine des 14-19 ans et son numéro du 1er mai. Et Kesako Mundi, le magazine des questions de société et son numéro d'avril. Je vous retrouve très prochainement dans Bande Geek Mafia pour une prochaine chronique lecture avec mes coups de cœur. A très bientôt sur les ondes de Radio G 101.5, la radio qui fait le point.
période de confinement oblige, vous êtes sans doute très nombreux, comme moi, à avoir parcouru l'ensemble des séries et des films Netflix, les mises à jour réalisées, les séries américaines de votre enfance revues, les séries françaises et les grands classiques reparcourus, et vous êtes arrivés à expiration de l'imagination vous permettant de passer ces moments difficiles. Eh bien, si cinématographiquement vous êtes à plat, cette chronique va certainement vous permettre de passer les quelques jours qui nous restent à faire avant notre liberté de sortie, à redécouvrir ou découvrir la série James Bond et le très nombreux lot de films qui lui est associé. Précisément, ce sont 25 films de la saga James Bond qui sont disponibles. 24 si l'on oublie le 25e qui était censé sortir récemment mais qui a été décalé pour cause de coronavirus. Le célèbre Mourir peut attendre, qui sortira donc en fin d'année et qui représente le 25e volet de la saga James Bond, est certainement celui qui est le plus attendu depuis ces dernières années. La franchise avec Daniel Craig, ce sont 5 films qui commencent par Casino Royale en 2006, Quantum of Solace 2008, Skyfall ou Spectre pour le dernier. Mais loin d'être la représentation réelle des films de James Bond avec Daniel Craig, la franchise commence réellement à faire ses preuves en 1962 avec James Bond contre Dr. No, ainsi que Bon baiser de Russie et enfin Goldfinger pour le top 3 des premiers films de James Bond. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de nous attarder sur quelques films à voir ou à revoir, car pour vous, j'ai revisionné les 24 films James Bond à voir qui vont certainement vous permettre une sélection des plus optimisées. Alors, tout d'abord, il convient de préciser qu'il y a eu beaucoup d'acteurs qui ont interprété James Bond et que tous ces acteurs ont traversé les générations, sont passés de la guerre froide au monde actuel sans aucune difficulté, toujours accompagnés de célèbres voitures, célèbres Aston Martin, qui ont été aussi nombreuses que les costumes déchiquetés, les cigares fumés et les verres de whisky, de cognac ou autres alcools divers et variés avalés. Daniel Craig, pour cela, est toutefois le plus à même de nous démontrer une certaine forme d'alcoolisme et de tabagisme au travers des films tels que Casino Royale ou encore Skyfall. Afin de vous permettre de revoir dans l'ordre les derniers films de James Bond, les plus intéressants, les plus impactants, je vous ai fait une sélection de films qui vous permettront certainement de redécouvrir les joies de la saga James Bond. À commencer par Goldfinger, interprété par Sean Connery, sorti en 1964. Goldfinger est sans doute un des films les plus marquants de James Bond pour sa présence virile de son acteur principal et une histoire qui s'avère être légèrement plus simple que les films précédents. Certes, il ne s'agit que d'une simple mission de surveillance dans ce James Bond, mais l'affaire et l'adversaire vont être particulièrement coriace, et ce film est réellement, ce film de Guy Hamilton, un des James Bond les plus impressionnants de sa génération 1964. Roger Moore en 1977 et 1979 dans L'espion qui m'aimait et dans Moonraker aborde un côté légèrement plus fantastique comme dans Moonraker de James Bond et s'adapte parfaitement à son époque. C'est un film intéressant, c'est un film assez troublant aussi Moonraker, mais qui mérite d'être revu. L'espion qui m'aimait, tous les deux donc réalisés par Lévis Gilbert, est un autre film légèrement avant Moonraker en 1977, qui est également une forme d'interprétation de Roger Moore, que nous connaissons très bien pour son flegme anglais. Et ces deux films sont deux interprétations de James Bond à une époque transitoire, 1977 et 1979. Par la suite, on retrouve Demain ne meurt jamais avec Pierce Brosnan, 1997, 99 et 2002, qui sont intéressants également, Pierce Brosnan ayant ce côté différent des autres acteurs avec ce flegme qu'on lui connaît très bien. Et cette nouvelle interprétation avec ses nouveaux gadgets, cette nouvelle transition est assez intéressante à regarder, avec une préférence toutefois pour Demain ne meurt jamais. Daniel Craig, c'est Casino Royale, c'est en 2006, Quantum of Solace en 2008, Skyfall, Spectre, Mourir peut attendre. Et Daniel Craig, c'est une toute autre interprétation avec parfois certains films qui peuvent être un petit peu complexes et qui peuvent être un petit peu délicats, comme par exemple Quantum of Solace, qui sans être raté est à la fois le moins long de ces films et dans le même temps sans doute le moins pertinent et le moins abouti, qui nécessite de passer rapidement à Casino Royale pour apprendre à jouer au poker avec bluff et surtout avec encore une fois ce sacré flegme qui caractérise James Bond et qui s'est transmis d'acteur en acteur. Le dernier revu, et qui sans doute est un des plus intéressants, des plus aboutis, tant sur l'image, sur le graphisme, que sur la musique, ainsi que sur les avancées de James Bond, c'est sans doute Skyfall, sorti en 2012 de Sam Mendes, qui marque un tournant dans la saga James Bond avec l'arrivée de nouveaux acteurs, le départ de certains acteurs et une transformation profonde du personnage. En tous les cas de figure, le dernier, Spectre, est sans doute une sorte d'adaptation, une nouvelle version d'une sorte de Fast and Furious avec cette scène mémorable de course-poursuite de voiture entre les personnages et qui réellement est parvenu à convaincre son public, mais laisse le spectateur un peu sur sa faim, tant on ne sait pas ce qu'il va advenir du fameux James Bond qui doit choisir entre une vie d'amour, d'eau fraîche, une vie amoureuse en couple, ou alors une vie d'aventure au service secret de Sa Majesté. En tout état de cause, en définitif, les 7 films que l'on peut recommander à voir, et pour la saga James Bond, Skyfall, ainsi que Casino Royale, mais également Permis de tuer, Demain ne meurt jamais, Moonraker, L'espion qui m'aimait, et pour le plaisir, si vous avez envie de revoir avec Lord George Lazenby, l'un des plus anciens James Bond de 1969, au service secret de Sa Majesté.
Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la sortie de mon jeu vidéo préféré en ces temps de confinement. Je veux bien sûr parler d'Animal Crossing New Horizons qui est sorti le 20 mars 2020 sur la Nintendo Switch. Qui n'a jamais rêvé de tout plaquer pour partir s'exiler sur une île déserte, loin de l'agitation et des problèmes pour s'offrir la chance de tout recommencer? C'est la promesse que Nintendo nous fait avec Animal Crossing New Horizons. Fini le petit village en bord de mer, vous voilà désormais l'un des premiers à fouler le sable de ce qui sera bientôt votre île. Et pour ce nouvel opus, l'accent a été mis sur la personnalisation avec notamment l'apparition du crafting, qui nous permet de construire ses propres meubles avec les ressources que l'on trouve dans le jeu, et du terraforming, qui est la capacité à modeler le terrain. L'autre nouveauté qui vient bouleverser un tant soit peu le rythme du jeu, c'est l'arrivée des objectifs. Au départ, Animal Crossing, c'est une série de jeux vidéo de gestion, développée par Nintendo, dans laquelle le joueur emménage dans un village habité par des animaux anthropomorphes et où diverses activités sont proposées. La série est notable pour son gameplay de type sandbox, c'est-à-dire qui fait principalement appel à la curiosité et à la créativité du joueur, le tout avec ou sans objectif prédéfini, et pour son utilisation étendue de l'horloge et du calendrier de la console, qui simule un déroulement en temps réel. D'où l'apparition du lapin de Pâques et la floraison des cerisiers lors des festivités du mois d'avril par exemple. Pour beaucoup d'adeptes, Animal Crossing y fait office de refuge, voire de petit coin de paradis où il fait bon vivre parsemé de bienveillance. Sans aucune pression, vous pouvez faire ami-ami avec vos voisins et voisines, contracter des prêts immobiliers à taux zéro et sans date d'échéance, pêcher, jardiner, partir à la chasse aux insectes ou déterrer des fossiles en toute insouciance pour aider le musée à agrandir sa collection. Ça, c'est un peu le topo de chacun des épisodes sortis, avec à chaque fois une petite nouveauté. et New Horizons y reprend grosso modo l'esprit de la série, mais bouscule progressivement le jeu avec quelques nouveautés. Vous vous retrouvez cette fois sur une île presque vierge et, en tant que délégué insulaire, vous avez la tâche de donner vie et rendre le plus attractif possible ce petit lopin de terre afin d'attirer un maximum de voyageurs. Comme dans le précédent volet, vous gérez les constructions et participez au développement des boutiques. Voilà la proposition, libre à vous d'y répondre ou de faire votre vie de votre côté tranquillement. Nul doute qu'il s'agit là d'un bon investissement pour occuper les longues semaines à venir. La multitude de choses à faire et encore à découvrir avec les futures mises à jour, le système d'objectifs et la possibilité de modifier chaque recoin de son île devraient enthousiasmer les fidèles, comme moi, et peut-être convaincre les autres sensibles au crafting. Et pour résumer, le plus brièvement possible, la série, elle a su évoluer sans trahir l'esprit des précédents volets, couler des jours paisibles et faire ce qu'il nous plaît sans pression. New Horizon, c'est la bouffée d'air frais qu'il nous fallait. Du coup, je ne peux que vous le conseiller. Achetez une Switch et jouez, parce que vous avez du temps, donc profitez-en. Prenez soin de vous et à bientôt. Don't wanna have to take your shit.
Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, pas de quiz. Je vais vous parler d'un auteur de romans policiers américain, Jesse Kellerman. J'avais lu, ça fait quelque temps, un de ses romans, en l'occurrence Les Visages, dont j'avais apprécié autant le style, que je trouvais très fluide, très agréable à lire, que le contenu, trouvé différent des romans que je lisais à l'époque. Effectivement, on est bien sur un roman policier, mais le côté psychologique du protagoniste, son évolution, sa manière de réfléchir, passe avant la résolution de l'enquête, qui n'en est pas vraiment une d'ailleurs. Et j'avais beaucoup apprécié puisque ça me permettait de rester dans l'ambiance policier sans rester dans les romans que je lisais à l'époque, qui étaient plutôt noirs comme je pouvais retrouver avec Tilliez, ou un peu clichés avec ceux des romans policiers des auteurs nordiques. On retrouvait toujours un commissaire un peu particulier qui menait une enquête. Je vous lis le synopsis, la plus grande œuvre d'art jamais créé dort dans les cartons d'un appartement miteux. Ethan Muller décide aussitôt d'exposer ses étranges tableaux qui mêlent à un décor torturé d'innocents visages d'enfants. Le succès est immédiat, le monde crie au génie, mais un policier à la retraite croit reconnaître certains visages, ceux d'enfants victimes de meurtres irrésolus. Et au cours d'un vide-grenier, j'avais retrouvé un second livre de cet auteur qui s'appelle « Jusqu'à la folie ». Ce livre, je l'avais mis de côté en attendant le moment où j'aurais du temps pour lire, et bah ce moment est arrivé et j'ai pu le lire, chose que j'ai appréciée puisque là aussi j'ai retrouvé le style fluide et agréable de la lecture et un côté très psychologique. Alors le côté psychologique est un petit peu récurrent chez Jesse Kellerman puisque c'est quelqu'un qui a étudié la psychologie à l'université d'Harvard, aussi le psynosis. Dans une rue sombre de Manhattan, très tard dans la nuit, une jeune femme est agressée par un homme armé d'un couteau. Jonah, un étudiant en médecine surmené, vole à son secours et tue accidentellement l'agresseur. Pendant que les médias font de lui un héros, le procureur s'interroge sur son geste héroïque. La victime, quant à elle, veut retrouver son sauveur et tient à lui montrer sa reconnaissance. Les événements s'enchaînent et Jonah est entraîné dans une spirale terrifiante. S'il est vrai qu'aucune mauvaise action ne demeure impunie, le châtiment de Jonah ne fait que commencer. Livre très agréable à lire et effectivement on se retrouve dans les méandres de la folie. Je vous invite donc à découvrir cet auteur, Jesse Kellerman. Je rappelle les deux titres. Le premier c'est Les Visages, le deuxième c'est Jusqu'à la folie. Alors c'est aux éditions Les Deux Terres. Une petite préférence quand même pour Les Visages que je vous invite à lire en priorité.
Radio G. Just wanna tell you. 101.5 FM.
Et nous continuons notre voyage cérébral. De cesse de les défaire. Y a-t-il une force attractive qui nous pousse les uns vers les autres et une force répulsive qui nous en éloigne? Voici la réponse d'un célèbre misanthrope et pessimiste du 19e siècle, Arthur Schopenhauer. Par une froide journée d'hiver, un troupeau de porcs-épics s'était mis en groupe, serré, pour se garantir mutuellement contre la gelée par leur propre chaleur. Mais tout aussitôt, ils ressentirent les atteintes de leurs piquants, ce qui les fit s'écarter les uns des autres. Quand le besoin de se réchauffer les eut rapprochés de nouveau, le même inconvénient se renouvela, de sorte qu'ils étaient ballottés de ça et de là entre les deux maux, jusqu'à ce qu'ils eussent fini par trouver une distance moyenne qui leur rendit la situation supportable. Ainsi, le besoin de société, né du vide et de la monotonie de leur vie intérieure, pousse les hommes les uns vers les autres. Mais leurs nombreuses manières d'être antipathiques et leurs insupportables défauts les dispersent de nouveau. La distance moyenne qu'ils finissent par découvrir et à laquelle la vie en commun devient possible, c'est la politesse et les belles manières. En Angleterre, on crie à celui qui ne se tient pas à cette distance « Keep your distance !» Par ce moyen, le besoin de se réchauffer n'est, à la vérité, satisfait qu'à moitié. Mais en revanche, on ne ressent pas la blessure des piquants. Cependant, celui qui possède assez de chaleur intérieure, propre, préfère rester en dehors de la société pour ne pas éprouver de désagréments ni en causer. Arthur Schopenhauer, Par erga et paralleli popmena, paragraphe 396. Pourquoi avons-nous besoin de nous conformer aux normes et valeurs du groupe? Et pourtant, tout en voulant maintenir son identité propre et son originalité. Souvent, se rassembler, se lier en communauté, revient à s'écarter d'autres, à se distinguer, voire à discriminer un autre groupe. Pour mieux être nous-mêmes, nous avons tous besoin de liens avec autrui, d'échanges multiples et de contacts. Et d'autant plus dans cette expérience, cette période de confinement sanitaire qui nous a touchés. Et pourtant, pour être mieux nous-mêmes, nous avons aussi besoin de solitude, de silence et d'isolement. Avant Schopenhauer, Kant avait introduit le concept d'insociable sociabilité, un paradoxe de la nature humaine qui le pousse à s'allier aux autres et à se conformer aux normes du groupe, et en même temps à vouloir s'écarter du groupe et se distinguer d'autrui. Il y voyait là le moteur d'une émulation, voire d'une compétition, et la cause d'un progrès social. N'y a-t-il que la compétition pour nous stimuler et nous faire progresser? N'avons-nous pas besoin aussi de la solidarité, d'entraide et du souci de l'autre? Quelle est la juste distance de toi à moi? Quelle est la juste distance entre moi et l'autre? La politesse, certes, évite de nous blesser les uns les autres. Je souhaiterais me rapprocher de mes amis, mais ne pas les envahir. Je désirerais fusionner avec mon amour, mais ne pas perdre ma liberté.
Perdu qu'on ne rattrape plus. sociale, perdons les années de sévice. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus.
Antisocial. Antisocial.
En ce moment, j'ai le temps de regarder quelques séries, donc je vais vous en parler ce soir. Je vous en propose trois. Donc, première série dont je souhaite vous parler ce soir, Atypical. C'est une série américaine de type comédie, créée par Robbie Rachid. La première saison est composée de 8 épisodes, et la série consiste en un récit initiatique d'un adolescent. Et Netflix a commencé sa diffusion en août 2017. C'est l'histoire de Sam Garner, c'est un garçon de 18 ans vivant dans le Connecticut et ayant un trouble du spectre de l'autisme. Il annonce à sa famille qu'il veut avoir une petite amie. Alors son père Doug a eu beaucoup de mal à établir une connexion avec Sam depuis sa naissance et il est ravi quand Sam se rapproche finalement de lui pour obtenir des conseils sur les filles. Après avoir reçu plusieurs conseils, Sam décide d'offrir à la fille qu'il aime des fraises enrobées de chocolat. Donc Doug le conduit chez elle et découvre avec stupeur qu'il s'agit de sa thérapeute de 26 ans, Julia. Doug ramène rapidement Sam chez lui avant qu'il ne puisse voir Julia, qui n'a aucune idée que Sam est amoureux d'elle. Donc Doug lui conseille de fréquenter des filles de son âge. Alors Sam décide qu'il lui faut une petite amie avant de pouvoir réellement commencer à fréquenter sa thérapeute. Alors avec l'aide de ses amis et de sa famille, il va commencer à apprendre les nuances sociales de l'amour. Alors que Sam devient plus indépendant, sa mère Elsa, qui a toujours été très protectrice à son égard, en vient à se questionner sur sa vie. Et lors d'une soirée entre amis, Elsa rencontre un barman et entame une liaison avec lui. Il ne lui faudra que peu de temps avant de commencer à éprouver de terribles remords. Et enfin Casey, la sœur de Sam, elle bat un record en compétition sportive et elle est approchée par une grande école pour être recrutée. Elle rêve d'y aller, mais elle s'inquiète de laisser Sam se débrouiller seul dans son école. Donc la quête d'indépendance de Sam pousse toute sa famille à entreprendre un travail d'introspection. Donc c'est une série très sympathique, avec de très bons acteurs, en particulier Jennifer Jason Leigh, qui joue Elsa Garner, la mère de Sam et de Casey. Pour l'instant, on est à 3 saisons. Une 4e saison sera diffusée en 2021, puisque la série a été renouvelée. La série a reçu de bonnes critiques de la part de la presse, mais surtout des spectateurs qui saluent son originalité, le caractère attachant de la série, mais aussi son côté intelligent qui invite le spectateur à s'interroger sur ce qu'est la normalité. Cependant, malgré ses avis positifs, la série est critiquée pour représenter des traits trop stéréotypés des troubles du spectre de l'autisme et pour ne pas avoir attribué le rôle principal à un acteur réellement autiste. Deuxième série pour moi ce soir, Master of None. C'est une série américaine en 20 épisodes d'environ 30 minutes, créée par Aziz Ansari et diffusée en 2 saisons sur NX. Pour vous résumer Master of None, l'histoire raconte le quotidien banal de Dave, un acteur pour publicité, trentenaire et vivant à New York. Dave souhaite une nouvelle carrière, une vraie petite amie, mais il a des cas de conscience. C'est vraiment un trentenaire new-yorkais qui est en train de devenir adulte. Donc Master of None, c'est une série, c'est une comédie dramatique. Il y a 2 saisons. C'est créé par Aziz Ansari, il est l'acteur principal. Il y a aussi des acteurs très drôles dans cette série, comme Eric Varenheim qui joue son ami. C'est sans prétention, mais c'est amusant, je vous la conseille. Enfin, 3e série pour moi ce soir, Santa Clarita Diet. Alors je salue Héloïse qui m'a conseillé cette série. C'est une série américaine, dans 30 épisodes d'environ 30 minutes. Pour l'instant, on en est à la 3e saison. Et en fait, on est dans la ville de Santa Clarita, en Californie. Sheila et Joel Ils sont agents immobiliers, ils sont les heureux parents d'une jeune fille nommée Abby. Mais un jour, Sheila se transforme en zombie et doit désormais apprendre à contrôler ses pulsions meurtrières. C'est vraiment très drôle puisque Sheila et Joel, ils mènent une vie tranquille. Ils élèvent leur fille adolescente en Californie. Mais leur monde change de manière inattendue, de manière radicale, hein, lorsque Sheila subit une transformation spectaculaire. Donc c'est vraiment réussi puisqu'on a deux acteurs excellents, Drew Barrymore que vous connaissez, Drew Barrymore que vous avez vu dans énormément de films, et Timothy Olyphant qui joue les parents, hein, qui joue Joel et Sheila. Ils sont très très drôles. Et puis il y a des acteurs récurrents que vous avez vu dans pas mal de séries télé qui sont aussi très amusants. Donc je vous la conseille, il y a 3 saisons pour l'instant. L'accueil a été plutôt positif, hein, voilà. Le casting est excellent, les rires sont fréquents. Donc Santa Clarita Diet, c'est aussi très sympa en ce moment. Donc je vous rappelle les 3 séries pour moi ce soir: Atypical, Master of None et Santa Clarita Diet.
Radio G. www.radio-g.fr.
Je vous propose maintenant de parler d'Assassin's Creed Valhalla, le futur Assassin's Creed qui va nous emmener à l'époque des Vikings. Alors, petite revue de ce que l'on sait grâce à la sortie du trailer et la manière dont, le jeu a été annoncé. Alors, Ubisoft nous a vraiment régalé avec un live sur Twitch, YouTube et compagnie, où on voyait le super designer, le super graphiste Boss Logic en train de réaliser un artwork pour le jeu qui était vraiment magnifique. On y voit un assassin, en tout cas un viking, équipé équipé avec tout le matériel qu'il faut pour un viking, hein, peau de bête, hache et compagnie, avec en arrière-plan 2 paysages bien différents. On a d'un côté gauche en bleu tout l'univers qui va nous rappeler donc la Norvège avec les fameux drakkars et également l'oiseau qui accompagne sous forme de drone, hein, en général dans le jeu, le héros. Et là, ce coup-ci, ce sera pas un aigle, hein. On avait connu Icaros avec Assassin's Creed Odyssey. Là, il s'agira plus probablement et plus logiquement pour les vikings d'un corbeau, hein, puisque c'est ce qui se rapporte aussi à Odin. Alors, on a aussi d'autres informations. On se doute que ça va se passer donc au 9e siècle, hein, ça a été annoncé par Ubisoft sur leur page officielle, et ça là va nous emmener pour les invasions vikings en Angleterre. Ils vont aller combattre les Saxons. Les Anglais et les Saxons, les Anglo-Saxons. On va donc avoir en Angleterre plusieurs choses. Alors le jeu, d'après ce que l'on en sait actuellement, va nous faire construire un village, finalement, nous implanter en Angleterre et défendre ce village tout en tentant d'unifier finalement les différents petits royaumes qui se guerroyaient entre eux en Angleterre de l'époque. On se situe historiquement à la chute de l'Empire carolingien. Sur le continent, l'Empire de Charlemagne s'est disloqué, hein, avec notamment la Francie occidentale la plus à l'ouest qui donnera la future France, et pour les autres pays qui donneront plus tard l'Empire romain germanique. Donc on a vraiment potentiellement des choses très très sympas, d'autant qu'on sait qu'il sera possible de mener des raids comme à l'époque des Vikings. Alors si vous, en plus, vous êtes fan de la série Viking ou de la série The Last Kingdom, vous devriez vous régaler vraiment avec ce prochain opus d'Assassin's Creed. Sur le héros lui-même, on sait qu'il va s'appeler Eivor. Alors a priori, Eivor, en nordique, hein, en viking de l'époque, n'est-ce pas, c'était un prénom féminin. Alors est-ce à dire que le héros va être féminin? On ne sait pas, puisque le artwork nous présente un personnage pour le moins barbu. Également dans le trailer cinématographique qui a été révélé, le héros semble être un homme. Alors, beaucoup de questions. Est-ce qu'on va avoir possibilité indifféremment de jouer un homme ou une femme en créant son personnage? Ou bien est-ce que Ubisoft va nous faire choisir l'un ou l'autre? A priori, d'après leur site, il s'agirait quand même plutôt finalement, au début je pensais pas, mais finalement si, on va avoir possibilité de créer le sexe de son personnage. Et le prénom d'Eivor aurait été choisi pour coller aussi bien un homme qu'une femme, et ils se sont pas trop arrêtés au fait de lier le prénom à un sexe. On apprend également avec les différentes éditions, les différentes informations qu'on a eues sur le site d'Ubisoft, et notamment sur le store et sur les éditions collector, le détail qu'ils mettent dans les images, etc., que la carte en fait du jeu se situerait en fait essentiellement pour la grande majorité du temps en Angleterre et pas tant que ça en Norvège. C'est-à-dire que l'artwork de révélation que nous avait fait Boss Logic nous préfigurait deux cartes, une en Norvège et une en Angleterre. A priori non, ce sera essentiellement du coup en Angleterre. Alors, sur les réseaux sociaux, on a eu beaucoup de commentaires sur le fait que les Vikings, c'était pas vraiment raccord avec l'idée des assassins. Hein. Je vous rappelle leur doctrine, quand même, rien n'est vrai, tout est permis, et puis surtout, nous agissons dans l'ombre pour servir la lumière. Sauf que les Vikings, ils sont plutôt du genre à faire des raids toutes haches dehors, à prendre par surprise certes leurs ennemis, mais à le faire vraiment au grand jour. Donc, je veux bien... Donc, effectivement, pour des assassins, le côté infiltration va pas forcément être au rendez-vous. En tout cas, on attend de voir des vidéos de gameplay. On sait rien, on va pas critiquer le jeu avant qu'il soit sorti, mais il y a certains fans qui expriment déjà leur désappointement quant au fait qu'on imagine mal des Vikings en mode infiltration ou faire des assassinats, ce genre de choses. Alors par contre, on a le retour après Assassin's Creed Odyssey de la fameuse lame secrète. On la voit donc au poignet gauche de notre héros. Alors elle est placée sur le dessus de l'avant-bras, hein, pas comme avec Ezio Altaïr ou nos anciens héros jusqu'à Assassin's Creed 3, ou même Black Flag avec Edward Kenway. Là, elle est placée sur le dessus. Hein, pour ceux qui ont joué à Assassin's Creed Odyssey, elle est placée de la même manière que Darius. Voilà, donc on va voir. Moi, je suis quand même très, très, très impatient. Ils m'ont vraiment mis la hype avec ce trailer. Ne serait-ce que pour, alors, comme d'habitude avec Assassin's Creed, hein, la beauté de la reconstitution historique et des paysages. Maintenant, j'attends vraiment de voir si on va pas simplement être dans un RPG viking. J'attends vraiment qu'ils nous remettent du lore Assassin's Creed, qu'on en apprenne encore plus sur les Issus, sur la première civilisation, sur ce qui va préfigurer la lutte avec les futurs Templiers, hein, puisque je rappelle que au 9e siècle, ils ne sont pas encore apparus. Donc voilà. Un gros gros hype sur ce jeu que je vais évidemment jouer et auquel je vous ferai et je ne manquerai pas évidemment de vous faire des retours une fois que j'aurai pu y jouer en fin d'année. La sortie est d'ailleurs prévue en décembre 2020 et vous sortira sur donc Xbox One, PS4, PC en matériel ou dématérialisé et également sur les futures consoles PS5 et Xbox One Series X, puisque c'est d'ailleurs le logo qui a été indiqué à la fin de la vidéo trailer. Voilà, donc grosse grosse hype pour Assassin's Creed Valhalla. On attend de voir maintenant comment ils vont nous proposer avec des vidéos de gameplay, comment ils vont intégrer finalement le gameplay propre à la saga Assassin's Creed. Est-ce qu'ils vont continuer de s'en éloigner ou est-ce qu'au contraire ils vont essayer de faire revenir certains fondamentaux que l'on appréciait particulièrement à l'époque d'Altaïr et d'Ezio. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de confinement en attendant le déconfinement, que vous soyez en jaune, rouge, orange ou verte. Et j'espère que vous allez bien. On se dit à la semaine prochaine pour une future chronique sur Bande Geek Mafia, 101.5 FM, la radio qui fait le moins.
Qu'as-tu donc dans ton panier du fromage, du fromage? Qu'as-tu donc dans ton panier du fromage de chez Morel?
Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle chronique BD confinée qui va s'organiser autour d'un thème que je vous propose de découvrir maintenant à partir de ces quelques notes de musique. Et oui, vous avez compris, il s'agit du thème du western. Alors je vais vous présenter deux bandes dessinées qui ont justement ce thème. Première bande dessinée réalisée par Jacques Lamontagne et Thierry Gloris, Wild West, tome 1, Calamity Jane, aux éditions Dupuis. Donc avec cette bande dessinée, nous nous retrouvons plongés dans le Far West hostile et sauvage. Dans cette jungle de violence, essaye de survivre une jeune orpheline âgée de 16 ans. C'est Martha Canary, qui est alors femme de ménage dans un saloon de la ville d'Omaha. Elle essaye de rester digne, mais elle finit par tomber sous l'emprise du patron du saloon, et ce dernier va très rapidement la forcer à se prostituer. Voilà le point de départ de l'histoire de celle qui va devenir Calamity Jane. Dans cette BD, les auteurs nous montrent toute la violence de la conquête de l'Ouest, mais aussi une vision de la vie de celle qui deviendra une légende de l'Ouest. Attention, on n'a pas affaire à une biographie officielle, car les jeunes années de Calamity Jane nous sont très mal connues. En effet, la légende brouille les pistes en mêlant le vrai et le faux. En tout cas, cette bande dessinée nous propose une vision très claire de la violence qu'a pu connaître la jeune Martha, qui, à la fin du tome, ne fera plus aucun cadeau envers ceux qui essaieront d'entraver sa liberté dans sa vie future. Une BD à lire de toute urgence, une BD extrêmement bien rythmée, extrêmement bien dessinée, qui est vraiment superbe. Deuxième bande dessinée aux éditions Soleil, West Legend. Alors, West Legend, en réalité, c'est une série de 6 tomes qui va présenter à chaque fois un mythe de l'Ouest, et derrière ce mythe de l'Ouest, et bien, il y a généralement un homme ou une femme, et donc une histoire. Chaque tome est indépendant, ce qui fait qu'on peut lire de manière complètement décousue, commencer par le tome 6 éventuellement, qui n'est pas encore réalisé, mais et pour revenir sur le tome 3, etc., etc. Alors, moi, je vous propose de vous présenter le tome 2, puisque c'est celui que j'ai découvert en premier. Il a été réalisé par Beck, Léonie, Nigrin et Najan. Donc, il s'agit de Billy the Kid, The Lincoln County War, aux éditions Soleil. L'histoire débute en 1878, en hiver 1878, au Nouveau-Mexique. Buck Shock Roberts arrive dans le petit village de Blazer Mills. Il espère trouver une cachette afin de pouvoir refaire sa vie, suite à des événements dont je vous laisserai découvrir. D'ailleurs, il attend aussi, pour pouvoir reconstituer cette vie, il attend de recevoir l'argent de la vente de son ranch. Mais l'arrivée d'un groupe d'hommes armés, les Régulatores, avec parmi eux un certain William Bonnet, dit le Kid, va chambouler complètement ses projets. L'atmosphère, d'un seul coup, va s'alourdir, va devenir irrespirable, et à ce moment-là, les bons, les brutes et les truands vont se déchaîner dans le petit village, mais aussi dans le comté de Lincoln, offrant l'opportunité au Kid de devenir le leader naturel des Régulateurs. Donc c'est une BD qui est aussi très très rythmée, et qui nous replonge avec délice dans l'atmosphère, et l'univers des westerns, si chers à Clint Eastwood, John Wayne ou encore de Quentin Tarantino. Donc pour finir cette chronique, je vais vous rappeler donc les titres des deux bandes dessinées. Donc aux éditions Dupuis de La Montagne Glorious Wild West Calamity Jane. Aux éditions Soleil, Beck, Léonie, Négrin, Najan, West Legend, Billy the Kid, The Lincoln County War. Donc, sur ce, je vais vous dire à bientôt pour une nouvelle rubrique BD. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches en restant chez vous, en écoutant Radio G. Radio G 100.5, la radio qui fait le point.
Bande Geek Mafia, votre émission Infoculture, tous les mercredis à 19h sur Radio G.
Radio G, 101.5.
The day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck, that day, I cut my throat.
101.5 FM. Radio G. 101.5 FM.